7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, le journal de l'international avec Michael Thébault. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, direction l'Inde. L'Inde apparemment bien partie pour réussir son pari solaire.
Et pourtant pari très ambitieux, le voici, que 40% de son énergie consommée soit d'origine renouvelable d'ici à 2030. Promesse faite par New Delhi lors de la COP21 à Paris. Et pas facile quand on sait que l'Inde est aujourd'hui le troisième émetteur de gaz à effet de serre au monde, que sur les 20 mégalopoles les plus polluées de la planète, 13 sont indiennes, et avec le boom économique, la demande en énergie est bien sûr chaque année plus forte, particulièrement en électricité. Or, un quart de l'électricité reste produite grâce aux seules centrales à charbon ultra polluantes. La solution retenue est donc le soleil, multiplié par 25 en 7 ans seulement sa production solaire. Bonjour Sébastien Farcy, en direct de Delhi.
Bonjour.
Alors cette révolution solaire est déjà en marche. Illustration, Sébastien, dans le sud du pays, visite de l'une de ces toutes nouvelles fermes solaires.
Oui, nous sommes ici à 140 km de la cité des nouvelles technologies de Bangalore, dans le sud du pays, et loin, très loin de son urbanisation effrénée. Cette campagne de l'état de l'Andhra Pradesh est aride, elle ne reçoit que quelques jours de pluie par an. Des conditions difficiles pour l'agriculture, mais parfaites pour récolter l'énergie du soleil. C'est ici en effet que Acme, l'une des deux plus grandes entreprises du secteur en Inde, a déployé plus de 350 000 panneaux solaires. Cette ferme d'une capacité de 50 MW distribue ainsi de l'électricité à 100 000 foyers ruraux sur 30 km aux alentours. Dinesh Reddy est le responsable enthousiaste de ce parc géré par seulement 15 employés à temps plein.
Construire une centrale solaire, ça requiert beaucoup de main-d'œuvre. En Inde, nous en avons assez, donc nous pouvons bâtir une centrale de 50 ou 100 MW en 3 à 6 mois. Le plus long, c'est de se procurer le matériel, car les modules viennent de Chine. Mais c'est ensuite très facile à entretenir comparé à n'importe quelle usine de production d'électricité. En fait, la majorité des problèmes, ils viennent des câbles. Nous devons également nettoyer ces modules 3 fois par mois pour enlever la poussière.
Voilà, et cette centrale est l'une des dizaines qui ont poussé comme ça en à peine plus d'un an.
En effet, en septembre dernier, par exemple, la multinationale indienne Adani a ouvert la plus grande centrale solaire du monde dans le sud de l'Inde. Elle fournit de l'énergie à 150 000 foyers pour 648 MW installés. En tout, le pays a multiplié par 2 en un an ses capacités photovoltaïques qui atteignent maintenant 10 gigawatts, ce qui place l'Inde au 7e rang mondial devant la France. Ceci a été possible grâce à une politique publique agressive d'incitation fiscale et d'enchères compétitive, ainsi qu'à une baisse rapide du prix mondial des équipements. Et tout cela a fait chuter le tarif du solaire indien de 24% en un an et en a fait dans certaines régions l'énergie la moins chère. Écoutez les explications de Vinay Roustagi. Il est le directeur d'une société de conseil en énergie renouvelable appelée Bridge to India.
L'énergie renouvelable est en train de devenir financièrement attrayante, car son coût chute en dessous de celui de l'électricité issue du charbon importé. Et c'est ce qui devrait entraîner leur croissance de manière durable. C'est le contraire de ce qui est arrivé en Occident, où les énergies renouvelables ont été encouragées par des subventions. Et quand ces dernières ont baissé, la croissance du renouvelable s'est complètement arrêtée.
Bon alors maintenant, évidemment, la question, Sébastien, l'Inde peut-elle, oui ou non, réussir son pari de la COP21?
Oui, Michael, la plupart des observateurs sont très confiants sur ce point. L'Inde devrait réussir à produire environ 40% de son électricité à partir de sources renouvelables, principalement solaires, d'ici à 2030, ce qui représente un changement drastique dans un pays aujourd'hui tellement dépendant du charbon. Cependant, pour cela, il faudra également rapidement réformer le vieux réseau de transmission, car l'énergie renouvelable, qui dépend du climat, est très instable. C'est ce qu'explique à nouveau Vinay Roustagi.
Prenons une journée d'été à son pic. 10 gigawatts d'énergie solaire sont produites, mais soudain, s'il y a un gros nuage, toute cette énergie tombe et les autres sources, thermiques ou nucléaires, doivent rapidement prendre le relais. Cela crée d'énormes tensions dans le système de génération et de transmission de l'électricité. C'est pour cela que vous avez besoin de beaucoup de systèmes intelligents pour gérer ces incertitudes, et d'importants investissements sont donc nécessaires pour pouvoir intégrer autant d'énergie renouvelable dans le réseau.
Pour remédier à ce problème, les pays occidentaux ont par exemple introduit plus de gaz dans leur mix énergétique, car cette source peut rapidement démarrer pour prendre le relais du solaire ou de l'éolien.
Sébastien Farcy, correspondant de France Inter à New Delhi, merci.
Et petit coup d'œil maintenant à la campagne présidentielle française, vue de l'étranger, Michael.
Ouais, avec notamment cet édito au vitriol de nos confrères belges du soir. Édito mis en ligne il y a quelques minutes et intitulé « La France plus fracturée que jamais ». Mais où est donc passée cette union nationale de la France d'après les attentats de 2015, se demande le quotidien. Réponse, il a fini de se fracasser dans un combat présidentiel d'une violence aussi inouïe qu'inédite. Ce ne sont plus les adversaires de toujours qui se tournent le dos ou se divisent sur des programmes. Ce sont des familles politiques entières qui se sont déclarées une guerre intestine. À gauche, elle est déjà profonde mais encore larvée. Les armes sans doute ne sortiront vraiment qu'après la défaite annoncée. Mais à droite, elle est désormais ouverte et impitoyable. Hier au Trocadéro, écrit l'éditorialiste, François Fillon a vu en ses soutiens le peuple de la France, des paysans, des sans-culottes, des châteaux et des cathédrales. Cela se sent désormais investi d'une résistance contre d'autres Français. On se pince pour se convaincre qu'on vit en 2017. Et un peu partout dans la presse étrangère, c'est la même tonalité. Ce soir, Alain Juppé ayant catégoriquement refusé ce matin d'être le plan B de la droite et du centre, eh bien François Fillon ressemble de plus en plus à un candidat posthume, estime The Telegraph. Hier déjà, son compatriote Dominique Alzi, Observer, parlait d'une crédibilité en miettes. Situation qui, je cite toujours, ouvre un boulevard à la toxique Marine Le Pen. Presse britannique qui ne voit donc qu'un seul rempart, a priori possible, Emmanuel Macron. Eh bien, pas du tout, l'avis de l'allemand Die Zeit, selon qui le leader d'En Marche n'est qu'un double un peu moins absurde du président Hollande. À en juger par ce qui lui tient lieu de programme, il sait encore moins comment faire entrer la France dans le 21e siècle que le désastreux président actuel. Fin de citation.
Et pour finir, deux infos en bref, Michael. La première en provenance de Corée du Sud.
Avec un chiffre, 815 000 euros, c'est la somme désormais promise par Séoul aux ressortissants nord-coréens qui accepteraient de fuir et surtout de trahir le régime de Pyongyang. Ne sont donc concernées que les personnalités nord-coréennes de haut rang, susceptibles évidemment de fournir de précieuses informations sur le régime, entourage du dictateur, informations militaires ou économiques. Une récompense proposée depuis plusieurs années déjà, mais qui jusqu'ici avait fait peu d'émules. Il faut dire que les autorités sud-coréennes ne proposaient que 200 000 euros, promesse donc aujourd'hui quadruplé. Enfin là, il ne s'agit pas d'une promesse, mais d'une proposition très sérieuse, celle d'un député russe, Igor Lebediev, membre du comité d'organisation de la Coupe du Monde de football 2018, mondial qui se jouera, vous le savez, en Russie. Et Igor Lebediev pense avoir trouvé la solution pour éviter ça. Voilà la solution pour éviter ce genre de bataille rangée entre supporters, ou plus exactement entre hooligans. Ici en l'occurrence des affrontements en plein centre de Marseille entre hooligans russes et anglais, c'était lors de l'Euro 2016 en France. Eh bien notre député russe propose de transformer ces bagarres, organisées en marge des matchs, en compétition à part entière. Un sport, dit-il, encadré par les forces de l'ordre pour canaliser la violence des supporters. Et il explique, les supporters anglais arrivent par exemple et commencent des bagarres. On leur répond, défi accepté, rendez-vous au stade à telle heure et tout se passera bien. D'autant qu'en Russie, nos fans de foot, poursuit-il, sont des combattants et pas des hooligans comme les Britanniques. Igor Lebediev, député et membre du parti d'extrême droite LDPR. À demain.
À demain, Michael.